justification, mais aussi l'annonce de notre réconciliation avec Dieu. Dans notre salut, dans notre évangile, l'évangile qui nous est adressé, c'est un salut dans lequel il y a un package, dans lequel il y a plein de choses différentes dans le salut que nous avons reçu. Dans le package de mon salut, dans le package du salut que Dieu m'a donné, il y a la justification, il y a le pardon des péchés, il y a l'habitation et la guidance du Saint-Esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'appartenance à la famille de Dieu. Mais dans le package de mon salut, dans les cadeaux qui me sont donnés avec mon salut, il y a aussi les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu font partie des cadeaux que Dieu nous fait en nous sauvant. Nous avons vu, rappelez-vous, différents textes de l'Écriture, notamment celui de Néhémie chapitre 9, qui nous montre que dans la conception du peuple de Dieu, les commandements de Dieu, c'était un privilège. Dieu nous a donné des lois justes, des lois droites, des lois fidèles qu'il nous a données, et il n'a pas fait la même chose par rapport aux nations. Donc le commandement que Dieu nous donne, c'est un cadeau, c'est un privilège, c'est une grâce que nous avons reçue, c'est une bénédiction que nous avons. Dès lors que Dieu nous donne le cadeau de ses commandements, nous sommes appelés à trouver tout notre plaisir dans ses commandements. Le chrétien est appelé à trouver tout son plaisir en Dieu, hein, dans la présence de Dieu, deux, dans la parole de Dieu, trois, dans le peuple de Dieu et aussi dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à prendre tout notre plaisir en Dieu et aussi, notamment, tout notre plaisir dans sa parole. Et prendre plaisir en Dieu, c'est aussi prendre plaisir à ses commandements. Car il nous est dit, dans le psaume 1, que cet homme qui marche avec Dieu, il met tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout son plaisir. Ça, c'est la caractéristique de l'enfant de Dieu. Il met tout son plaisir dans la loi de son Dieu. Donc, il aime les commandements. Il chérit les commandements. Il en est heureux. Et nous sommes donc appelés à chérir les commandements que Dieu nous donne. Vous l'avez certainement vécu lorsque vous êtes venu à Christ. Immédiatement, la vraie conversion, elle se marque par cela. C'est que nous sommes heureux de découvrir les lois et les principes de Dieu. Quand on se convertit, on dit « Mais Seigneur, moi je vivais n'importe comment, je faisais n'importe quoi, je ne pensais pas, je parlais n'importe comment, j'agissais n'importe comment, et maintenant je viens à la vérité et je découvre ta parole qui me dit « Non, pas ça, oui, ça ». Et lorsqu'on se convertit, c'est un cadeau, on en est heureux. D'ailleurs, on change de vie. On est tellement convaincu que c'est la vérité, on est tellement heureux des cadeaux de Dieu qu'on change de vie pour vivre selon ses commandements. Et dès lors, tout au long de notre vie, nous sommes appelés à pouvoir chérir ses commandements. Jusqu'ici, nous avons parlé de pourquoi les commandements de Dieu sont des cadeaux. Alors, il y a plein de caractéristiques, mais rappelez-vous notamment, la parole de Dieu rend sage l'ignorant, les commandements de Dieu réjouissent le cœur, les commandements de Dieu ont plein de vertus que nous recevons. Et maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie, qui est de savoir... Comment est-ce que nous devons faire pour chérir les commandements de Dieu ? Finalement, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire quoi, chérir les commandements de Dieu ? Alors, nous allons ouvrir notre psaume de référence, évidemment, que nous allons lire cette fois-ci au début, le psaume 119. Donc, on a étudié le psaume 19 les dernières fois, et nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le psaume 119. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 16. Donc le psaume 119, verset 1er jusqu'au verset 16. Voici donc ce qui est écrit. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Vous voyez que dans ce court passage, il y a le rappel de deux versets qu'on a évoqués en parlant justement de chérir les commandements de Dieu. Ces versets qui dit, verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Tous les trésors. « Je me réjouis comme si j'avais les plus beaux cadeaux. » Et le verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta... » Je fais mes délices de tes statuts. Ça vous parle, ça? Mes délices de tes statuts. Alors, comment devons-nous faire, justement, pour faire des commandements de Dieu nos délices? Alors, nous allons voir différents éléments, mais commençons évidemment ce matin par le premier élément. Si nous voulons chérir les commandements de Dieu, si nous voulons en faire nos délices, nous devons bien évidemment les apprendre. Premièrement, apprendre les commandements de Dieu. Nous devons les apprendre. L'essentiel n'est même pas de les connaître, mais l'essentiel, c'est d'avoir le désir de les connaître. Dans le psaume 119, à différents endroits, David fait part de son désir ardent de connaître les commandements de Dieu. Il veut connaître les commandements de Dieu. Il veut les connaître. Il prie dans le psaume 119 pour que Dieu lui enseigne ses statuts. Seigneur, je veux connaître, je veux découvrir, je veux comprendre tes commandements. Par exemple, dans le psaume 119, verset 26, il est dit « Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts ». Et dans le passage que nous avons lu, versets 12 et 13, « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts ». On ne peut pas chérir des commandements que l'on ignore, évidemment. On ne peut pas se réjouir et trouver son plaisir dans des commandements que l'on ne connaît même pas. C'est pour cela que Jésus a donné comme mandat spécial à l'Église d'enseigner les commandements de Dieu. C'est un aspect qu'on oublie très souvent, mais il faut quand même le rappeler, c'est que c'est une part essentielle. Et Jésus l'a formulé dans des termes très précis, pour ne pas que les filous comme vous trouviez encore des excuses pour dire « oui, mais c'était pas tout à fait ça, c'était dans l'Ancien Testament, toutes ces histoires-là ». Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qui dit ça? C'est Moïse dans l'Ancien Testament? C'est Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'expression en elle-même, enseignez-leur à observer, c'est enseignez-leur à observer mes commandements, ce que j'ai prescrit, ce que j'ai dit qu'il fallait faire, ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire, enseignez-leur. Donc la première chose pour chérir les commandements de Dieu, c'est quand même de les connaître. Nous avons besoin qu'ils nous soient enseignés, nous avons besoin d'avoir le désir de les connaître pour pouvoir commencer cette quête. Il y a de notre part une nécessité d'avoir un désir ardent de connaître les commandements de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Connaître les commandements de Dieu, ça ne se limite pas à connaître les 10 commandements. C'est pas dans cette optique-là qu'il faut voir les choses. C'est pas juste dire, ben oui, je connais les 10 commandements, je les ai appris à l'école du dimanche, et puis, de temps en temps, le samedi soir, je les relis pour, comme ça, je n'oublie pas trop. C'est pas juste ça. Les commandements de Dieu, c'est pas juste les phrases qui commencent par « tu feras ceci et tu ne feras pas ceci ». Les commandements de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous prescrit dans sa parole. C'est tout ce que Dieu nous dit sur sa volonté. Ce sont toutes les instructions, toutes les recommandations, tous les avertissements que Dieu nous donne. Ce sont toutes les paroles où Dieu nous indique sa volonté. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que la volonté de Dieu, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Rappelez-vous, les commandements de Dieu montrent le cœur de Dieu. Donc, quand on dit que nous sommes appelés à apprendre les commandements de Dieu, ça veut dire que nous sommes appelés à apprendre tout ce que Dieu nous dit sur sa volonté. Tout ce que nous avons à savoir sur ce que Dieu veut. Je suis appelé à désirer savoir ce que Dieu veut. Alors bien sûr, ça se matérialise dans des commandements précis. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela, tu iras là, tu feras ceci. Mais bien plus que cela, dans toute la parole, nous avons accès à tout un ensemble de principes, principes de Dieu, pensées de Dieu. Et encore une fois, rappelons-nous que c'est l'enjeu d'avoir un véritable cœur à cœur avec Dieu. Dieu nous donne ses commandements qui nous montrent son cœur. Je ne peux pas dire, comme on dit dans beaucoup de cantiques, « Seigneur, je veux connaître ton cœur » si je ne veux pas connaître ses commandements. Parce que ses commandements, ils nous montrent le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à apprendre les commandements de Dieu, et c'est-à-dire à apprendre la pensée de Dieu sur chaque domaine de notre vie. Savez-vous qu'il y a une pensée de Dieu sur chaque domaine de notre vie ? Il y a une pensée de Dieu sur tout ce que nous sommes. Il y a une pensée de Dieu sur l'argent, il y a une pensée de Dieu sur la famille, il y a une pensée de Dieu sur le comportement, sur la parole, il y a une pensée de Dieu sur tout. Dieu nous révèle dans sa parole sa pensée, sa volonté que nous sommes appelés à connaître. Apprendre les commandements de Dieu, c'est découvrir la pensée qu'il forme pour l'ensemble de notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie, pour chaque aspect de notre vie, pour chaque dimension de notre vie? Quelle est la pensée que Dieu forme sur notre vie, sur notre foi, sur notre marche, sur nos comportements? Et dans cette pensée de Dieu, dans cette découverte de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, nous allons découvrir ce que Dieu approuve, ce que Dieu désapprouve, ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, ce qui attriste le cœur de Dieu. Lorsque nous comprenons et découvrons la pensée de Dieu, nous découvrons ce que Dieu approuve, ce que Dieu aime. Vous savez qu'il y a des versets dans la Bible qui nous disent ce que Dieu aime. C'est merveilleux, hein, ça. Dans la Bible, je sais ce que le Dieu de l'univers aime et ce qu'il n'aime pas. C'est important de savoir ce que les gens aiment et n'aiment pas. Par exemple, on l'a rappelé il y a pas longtemps, mais dans les psaumes, par exemple, il est dit « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. » Il aime la justice. Hein, quand vous invitez quelqu'un, vous voulez savoir ce qu'il aime bien. Et pour savoir qu'est-ce que je peux te faire, qu'est-ce que je peux te faire pour te faire plaisir. Eh bien, si je veux apporter un bon petit plat à Dieu, je n'ai qu'à ouvrir la parole et je sais dedans ce qu'il aime. Seigneur, qu'est-ce que je peux te faire comme petit dessert? Qu'est-ce que je peux te faire comme entrée, Seigneur? Mais j'ai tout dans la parole. Car l'Éternel aime la justice. Dieu aime la justice. Voilà. Dieu aime ce qui est droit. Dieu aime l'intégrité. Dieu aime la justice. Mais dans la parole, on a plein d'autres choses là-dessus. Dieu aime l'ordre. Dieu aime la paix. Dieu aime la vérité. Dieu aime la douceur. Dieu aime la sainteté. Dans la parole, nous découvrons ce que Dieu aime. Mais dans la parole aussi, nous découvrons ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est aussi important. Parce que vous ne voudriez pas offrir à quelqu'un un repas qu'il déteste. Vous ne voudriez pas, par exemple, faire un... Comme vous aimez bien faire, vous autres, là. Comment est-ce que vous appelez ces trucs-là que vous faites à la fin des repas? Un plateau de fromage. Faut pas me faire un plateau de fromage. Moi, je déteste le fromage. Ce serait quand même malvenu. Hein. Vous seriez embêté de dire, oh là là, je n'ai fait que ça en plus. Il n'y a que du fromage. On a envie de savoir ce que les gens n'aiment pas. On a envie de savoir, hein, t'as pas trop chaud, tu veux que j'ouvre. On a envie de savoir aussi ce que Dieu n'aime pas. Et dans la parole, on a plein de choses qui nous dit, plein de versets qui nous parlent de ce que Dieu n'aime pas. Alors rappelez-vous par exemple, je sais que vous y pensez certainement, ce beau verset qui nous parle de ce que Dieu n'aime pas. Dans les Proverbes chapitre 6, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre ses frères. Ça, Dieu déteste ça. Dieu déteste, par exemple, le mépris, donc quand on regarde les autres de haut. Dieu déteste l'orgueil. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste les gens qui mettent la discorde entre les gens. Dieu déteste ça. C'est une puanteur devant lui. Il déteste ça. Nous pouvons découvrir ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle de découvrir ce que Dieu n'aime pas? Ah ben non, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je sais ce que Dieu n'aime pas, je sais vers d'où je dois m'éloigner. Je sais quels sont les comportements, les actions, les attitudes dont je dois m'éloigner. Connaître la pensée de Dieu, c'est aussi connaître ce qui est cher au cœur de Dieu. Vous savez qu'il y a des choses qui sont chères au cœur de Dieu, qui sont importantes pour Dieu. Pour Dieu, tout n'a pas la même importance. Il y a des choses dont il nous dit dans sa parole qu'elles lui sont chères, qu'elles sont chères à son cœur. Alors on pourrait donner plein d'exemples de choses qui sont chères au cœur de Dieu. On pourrait en donner beaucoup. Mais prenons juste l'un ou l'autre exemple. Premièrement, la Bible nous montre qu'il y a un truc qui est cher au cœur de Dieu. Exemple, ce sont les veuves et les orphelins. Ça, c'est cher au cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Ça, c'est cher au cœur de Dieu. Dans Deutéronome, par exemple, chapitre 10, versets 17 à 18, il est dit par exemple ceci, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne nourriture et vêtements. » Dieu aime faire droit à l'orphelin, à la veuve, et Dieu aime l'étranger. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit du cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu aime la veuve, l'orphelin, l'étranger. Mais dans la parole, du coup, comme c'est cher au cœur de Dieu, cela nous est donné comme commandement à nous. Parce que c'est important pour Dieu, ce sont des commandements qui nous sont adressés. Par exemple, dans Exode, chapitre 22, versets 21 à 24, il est dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. » Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Donc parce que c'est cher au cœur de Dieu, ça devient un commandement pour nous et nous sommes appelés aussi à ce que ça soit cher dans nos cœurs, important pour nous. La veuve, l'orphelin, l'étranger, la personne en difficulté, l'handicapé, le faible, le pauvre. C'est cher au cœur de Dieu, ça doit donc être cher à nos cœurs aussi. Dans la parole de Dieu, nous découvrons aussi ce qui fait la joie du cœur de Dieu. La joie du cœur de Dieu. Alors là encore, on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais prenons un exemple. Par exemple, Dieu dit que ça fait sa joie lorsqu'on respecte son jour. Vous savez que dans la Bible, le Shabbat, Dieu dit, c'est mon jour. C'est beau, hein, ça, comme chose. Ça, c'est mon jour. Comme les enfants disent, ça c'est mon jouet, ça c'est mon jour. Si tu respectes mon jour, Dieu est réjoui quand nous respectons son jour, le jour qui est pour lui, le jour qui est mis à part pour lui. Et il y a une bénédiction merveilleuse, merveilleuse, dans Ésaïe 58, versets 13 à 14. On pourra y revenir parce que c'est un verset important dans notre série. Dans Ésaïe 58, 13 à 14, il dit par exemple, écoutez bien, hein, ne dormez pas encore. Parce que la semaine passée, vous aviez l'excuse qu'il faisait trop chaud, aujourd'hui, vous allez dire qu'il pleut, donc ne dormez pas. Ésaïe 58, 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, mon jour, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, ben vous voyez, c'est dans le verset, en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si tu respectes mon jour. Ça fait la joie du cœur de Dieu que ses enfants respectent son jour, se souviennent qu'il s'est reposé, qu'il a bien créé le monde et qu'il y a un jour où il s'est reposé et où il a observé, il a contemplé sa création, il s'est réjoui de sa création. Ça fait la joie du cœur de Dieu. Mais autre exemple aussi, dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu fait sa joie d'autre chose. Alors, ça c'est un verset intéressant parce que c'est l'apôtre Jean qui parle. D'accord ? C'est l'apôtre Jean qui parle à l'Église. Mais les mots de l'apôtre Jean sont tellement bien formulés qu'on peut se penser, alors évidemment c'est inspiré, mais on pourrait dire que ce sont les mots de Dieu pour nous. Tellement c'est bien formulé. Prenez par exemple 2 Jean 1, verset 4. C'est plus pour ceux qui notent, on n'est pas obligé d'afficher, mais c'est l'apôtre Jean qui dit ceci. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. J'ai été fort réjoui de voir tes enfants, il parle des chrétiens de l'Église, qui marchent dans la vérité. Ça, ça fait la joie du cœur de Dieu. Des gens qui marchent dans la vérité. 3 Jean verset 1, donc c'est la troisième épître de Jean verset 1, c'est encore l'apôtre qui parle, mais on pourrait vraiment dire que c'est Dieu qui nous parle. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, Dieu nous dit, mais moi, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants, ceux qui m'appartiennent, marcher dans la vérité. Dieu aime la paix, Dieu aime la vérité, Dieu aime la justice. Je n'ai pas de plus grande joie. Dans sa parole, Dieu nous révèle aussi les choses qui font sa joie parce qu'elle participe à son plan, à ses plans, à sa volonté. On connaît par exemple le texte de Agée où il dit au peuple de Dieu, rappelez-vous que eh oui, vous méprisez ma maison, vous habitez dans des belles maisons, vous vous occupez de vos maisons, mais moi, ma maison, mon temple, vous ne vous en occupez pas, vous délaissez mon œuvre pour vous occuper de vos vies. Et par exemple dans Agée, chapitre 1, verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Bâtissez ma maison, j'en aurai de la joie et j'en serai glorifié. Lorsque je bâtis la maison de l'Éternel, traduction, lorsque je travaille à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, Dieu dit, j'en ai de la joie et j'en suis glorifié. Ça fait plaisir au cœur de Dieu. Donc voyez-vous, les commandements de Dieu, ce n'est pas juste tu ne feras pas et tu feras. C'est plus que ça. C'est tout ce que Dieu nous révèle sur ce qu'il veut, sur sa volonté. Dans la parole de Dieu, nous découvrons aussi ce qui est bon pour nous aux yeux de Dieu. Ce qui est bon pour nous aux yeux. Dieu nous dit ce qui est bon pour nous. Ce qui est important pour lui, mais ce qui est bon pour nous. Et dès lors, nous pouvons aussi y donner importance parce que nous découvrons que Dieu estime que c'est bon pour nous. Par exemple, on va faire un jeu. Vous allez gagner parce que vous êtes fort. Complétez la phrase. Je sais que vous allez tous gagner. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que c'est bon pour vous. Ça me glorifie, mais c'est bon pour vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans la parole, nous découvrons toute cette pensée de Dieu. Alors, premièrement, pour chérir les commandements de Dieu, nous devons les apprendre, les découvrir, les comprendre. Avons-nous, aujourd'hui, comme enfants de Dieu, chacun de nous, avons-nous ce réflexe et cette envie d'apprendre ce que Dieu nous dit sur sa volonté? On pourrait dire, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse de savoir ce que Dieu dit sur sa volonté? Quand Dieu voit l'Église du 21e siècle, quand il nous voit, quand il voit notre Église, est-ce qu'il voit des gens qui ont envie d'apprendre sa volonté? Point d'interrogation. Est-ce que nous avons envie de savoir ce que Dieu nous dit sur comment nous devons vivre, parler, gérer notre argent, vivre avec les autres? Est-ce que nous voulons découvrir toutes ces choses? Est-ce que c'est une passion pour nous de savoir ça? On ne peut pas dire qu'on est passionné de Dieu, qu'on se réjouit en Dieu, si on ne se réjouit pas dans ce qu'il dit aussi. David dit « Enseigne-moi tes statuts, Seigneur. Apprends-moi ta parole. Enseigne-moi tes statuts. » La maturité spirituelle, elle se marque dans une compréhension de la volonté de Dieu et une compréhension de ses commandements. Les chrétiens qui sont matures spirituellement, ce sont des personnes qui comprennent la volonté de Dieu et qui comprennent les commandements de Dieu. Qu'on ne nous dise pas le contraire. C'est très important de bien définir la maturité spirituelle. Parce que parfois, ce qui se passe dans nos milieux, c'est que nous définissons la maturité spirituelle par des critères que nous nous donnons nous-mêmes. Par notre activité, par ce que nous faisons, par ce que nous disons, par ce que nous connaissons intellectuellement, par des histoires comme ça. Et on pourrait parfois en croire que finalement, quand on dit être mature spirituellement, ben, c'est j'aime Jésus, quoi. J'aime Jésus. Mais j'aime Jésus, c'est quelque chose de très précis, hein. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est, aimer Jésus, c'est pas juste, ça a une implication concrète. La maturité spirituelle, elle se marque lorsque nous connaissons la volonté de Dieu. Lorsque nous connaissons ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est notre maturité spirituelle. En d'autres termes, pour le dire autrement, si je veux mesurer ma proximité avec Dieu, je dois me demander, est-ce que je connais la volonté de Dieu? Alors évidemment, pas pour tous les trucs concrets. Bien sûr qu'on demande à Dieu sa volonté pour tel aspect de notre vie. Mais sur ce que Dieu veut, est-ce que je sais ce que Dieu veut? Il y a un passage très clair à ce sujet, sur lequel on s'est beaucoup arrêté en 2018. Et vous avez oublié depuis, donc on est obligé de le relire. Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 10. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. L'apôtre Paul qui parle aux Colossiens, et il leur dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Depuis que nous avons été informés que vous croyez, nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi ? Pour que vous fassiez beaucoup de choses, pour que vous alliez partout ? Non. Pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous connaissiez ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, que vous connaissiez la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est bon ça, parce que ça veut dire qu'on n'est pas des gens perdus à dire « je ne sais pas trop, oui je crois en Dieu, mais je ne sais pas trop ce qu'il veut, ce qu'il dit ». Souvent, c'est intéressant dans la société quand on parle avec des personnes qui vont dire « oui, je suis croyant et pas pratiquant », ou alors des gens qui vont dire qu'ils sont croyants mais à très lointain, c'est qu'en fait, ils ont une foi qui n'implique pas de connaissance de ce que Dieu veut. Donc, ils croient en Dieu, mais ils sont incapables de dire « tiens, qu'est-ce que Dieu veut dans telle situation, par rapport à telle chose, ils ne savent pas ». Donc, ça veut dire que c'est juste la connaissance, oui, du fait qu'il y a un Dieu ou il y a quelque chose. Mais quand on grandit dans la maturité spirituelle, quand on rencontre vraiment Jésus, ça se matérialise aussi par le fait que je sais ce que Dieu veut. Je sais ce que Dieu veut. J'ai une perception directe de ce que Dieu veut dans différentes situations. Dans telle situation de confusion, je sais ce que la parole dit, je sais ce que Dieu veut. On me demande de l'aide pour telle chose. Ah oui, je sais ce que Dieu veut. J'ai une émotion que je ressens. Ah oui, 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 je sais ce que Dieu veut. Il y a une situation de crise qui est là. Ok, je sais ce que Dieu veut. Le croyant est appelé à marcher dans la connaissance de la volonté de Dieu. Ça nous rend solide, ça. Hein, c'est comme si on vous dit, vous avez un GPS intégré et il n'y a même pas besoin de mettre l'adresse. Donc, à tout moment, ok, ben là, j'ai eu un truc qui s'est passé, ça. Ok, voici ce que Dieu dit. Ah là, je veux ceci. Ah oui, voici ce que Dieu dit. Là, je dois gérer mon argent. Ah ben voilà ce que Dieu dit. Là, je dois me marier. Voici ce que Dieu dit. Là, je dois régler un conflit. Voici ce que Dieu dit. Rempli de la connaissance de sa volonté. C'est de l'ordre de l'accessible, dès lors qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit et que l'on a le désir de connaître la pensée de Dieu. C'est de l'ordre de l'accessible, ce n'est pas pour les grands seigneurs, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Nous pouvons être des gens qui connaissent la pensée de Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu. Alors on pourrait se demander, vous pourriez vous demander, pourquoi est-ce que David demande avec autant d'instance que Dieu lui enseigne ses commandements. Si on y réfléchit, ça a un côté très étonnant. En réalité, les commandements de Dieu dans le peuple juif sont appris dès l'enfance. Ils ne sont pas très compliqués. Rappelez-vous le jeune homme riche. Quand on lui dit, il cite facilement. Pour un jeune homme juif, il n'y a pas de grande complexité à savoir les commandements de Dieu. Et même vous, vous les connaissez, vous en connaissez comme ça. Mais pourquoi est-ce que David dit à Dieu « Enseigne-moi tes statuts » Ça n'a pas l'air utile et on se demande un peu ce qu'il veut dire. Certainement que David n'est pas juste en train de dire « Seigneur, je voudrais bien les connaître pour les énumérer. » Mais que David est justement en train de dire « Je voudrais, Seigneur, être pénétré de tes commandements. Enseigne-moi tes commandements » pour que je puisse en comprendre l'importance, le sens et la valeur. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, la parole dit que… » Mais je veux comprendre tes commandements, je veux comprendre ce que tu dis, je veux vraiment être pénétré, je veux qu'à l'intérieur de moi soit vraiment déployée toute la force de tes commandements. Il les connaissait, mais il demandait à Dieu de pouvoir mieux les acquérir dans son cœur, mieux se les approprier, mieux vivre selon ceux-ci, qu'ils puissent prendre plus de place en lui, plus de valeur en lui. Mais oui, je les connais, vous les connaissez tous. Mais est-ce qu'ils ont de la valeur dans mon cœur? Est-ce que j'en comprends toute l'étendue, toute la force, toute l'intensité? C'est comme s'il disait, Seigneur, on m'en a parlé de tes commandements, j'ai entendu dire, mais apprends-moi à vraiment comprendre, enseigne-moi vraiment ce que ça veut dire, que je puisse intégrer personnellement tes commandements. Enseigner, c'est un mot fort quand il dit « enseigne-moi tes commandements ». Quand on enseigne, on ne dit pas juste « voilà, vous voyez, x carré plus 2ab plus 2c égale xb ». On explique pourquoi, on enseigne. Donc quand on enseigne, on ne se contente pas de proclamer des choses, on les explique. Et donc, David est en train de dire « Seigneur, explique-moi tes commandements. J'aimerais vraiment les comprendre, j'aimerais comprendre la profondeur de tes commandements, j'aimerais comprendre ce que tu veux me dire, j'aimerais comprendre en détail ce que ta parole veut dire. Je voudrais intérioriser ta parole, je voudrais la comprendre en profondeur, pour pouvoir la mettre en pratique. Je voudrais la saisir dans toute sa densité. Sinon, on s'en limite à une connaissance superficielle qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans la vie en réalité. Nous avons besoin de les connaître, de les comprendre en profondeur, ces commandements. Et quand on est dans cette optique-là, voyez-vous, on va toujours dire, Seigneur, enseigne-moi tes commandements. Toujours. Même à 90 ans, on va dire, Seigneur, enseigne-moi tes commandements. Parce que, il y a toujours quelque chose à en comprendre. Prenez l'exemple, le simple exemple de Jésus. Le simple de Jésus lui-même, qui montre ce que ça veut dire « Enseigne-moi tes statuts ». Jésus explique ce que ça peut vouloir dire. Il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « imbécile » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc le commandement, à la base, c'est « tu ne tueras point ». Vous dites « c'est facile ». Moi, j'ai jamais tué personne, je ne compte pas tuer quelqu'un. Peut-être le voisin s'il fait encore trop de bruit, mais et encore. Ben, ça va, j'ai tué personne. Oui, mais ça, c'est pas encore connaître le commandement de Dieu. Jésus nous apprend ce que c'est, ce que ça veut dire. Dès lors que tu as déjà dit à ton frère, ton voisin, imbécile, tu l'as déjà tué. Dès lors que tu te mets en colère, tu l'as déjà tué. Donc Jésus nous aide à comprendre ce que veut dire le commandement de Dieu. Et là, on ne prend qu'un seul exemple et Jésus donne déjà deux applications du même verset. Alors imaginez si on prend toute la parole de Dieu, toutes les instructions de Dieu, tout ce qu'on peut comprendre derrière les commandements de Dieu. Quand on dit « enseigne-moi tes statuts », ça veut dire « Seigneur, aide-moi à aller au fond de la compréhension de ta parole. Aide-moi à la comprendre réellement, aide-moi à saisir ce qu'elle veut dire pour moi et ce qu'elle veut dire pour ma vie. Je veux aller plus loin dans la compréhension de ta parole. » Autre exemple que j'attribue, n'est-ce pas, à notre chère Anne-Marie. Et c'est un très bel exemple qu'elle m'a donné à l'époque, quand elle m'invitait encore chez elle. Maintenant, elle m'abandonne un peu. Mais c'est... Non, c'est pas vrai. C'est le contraire, c'est moi qui... Elle m'a dit une phrase, mais c'est une phrase qui est évidente. Mais quand elle me l'a dit, je me dis, c'est vraiment bien dit. Elle me rappelait l'expression « exagérer, c'est mentir ». Exagérer, c'est mentir. Donc quand la parole me dit « tu ne mentiras point », c'est pas juste « ne mens pas, quoi, ne dis pas des trucs qui sont pas vrais ». Ça veut dire aussi « n'exagère pas ». Quand tu exagères, tu mens. Donc quand on me dit « tu ne mentiras point », on ne me dit pas juste « ne dis pas que le ciel est vert quand il est bleu », on me dit aussi « ne dis pas des demi-vérités, n'exagère pas la réalité, ne va pas trop loin, n'arrange pas la vérité, ne mets pas des petites virgules, dis la vérité. » Exagérer, c'est mentir. Vous voyez, deux exemples de commandements, mais ça, ce ne sont que des exemples. Mais imaginez si vous prenez toute la parole, ça va jusqu'où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait multiplier les exemples. Il y a plein de commandements de Dieu dont nous sommes appelés à comprendre toute la densité, toute l'importance, toute la valeur pour pouvoir marcher selon ceci. Alors, pour plus tard, je vous donne un défi. C'est facile, mais c'est pas facile si on reste au superficiel. Quand on est superficiel, c'est toujours facile. Ah oui, tu ne mentiras point, ne pas dire de mensonges. Allez, non. Creuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne un verset que vous pourrez méditer. Finalement, ça veut dire quoi ? Dans Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est un commandement. Accueillez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi ? Quand les gens arrivent à l'église, ne fermez pas la porte. Oui. Si un frère de l'église vient sonner à ta maison, surtout ouvre la porte. Oui. Et quoi d'autre ? Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Si vous passez du temps, un peu comme on l'a fait à l'atelier de prière l'autre jour, à méditer ce verset pendant des heures et des heures et des heures et des heures, vous allez peut-être découvrir qu'il a un sens beaucoup plus profond que ce qu'on en dirait quand on dit accueillez-vous les uns les autres. Soyez gentils les uns avec les autres. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous enseigner sa parole pour aller plus loin, pour mieux la comprendre, pour mieux la saisir et aussi pour pouvoir mieux l'appliquer dans nos vies. C'est une prière que David fait. C'est une prière qui se retrouve dans les différents endroits. Et par exemple, dans le psaume 143, verset 10, la même prière est répétée. Et elle est essentielle, elle doit être nôtre aussi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi tes commandements. Apprends-moi ta parole. Frères et sœurs, si nous faisons cette vraie prière, nous n'en aurons jamais fini avec la parole de Dieu. Jamais. Nous n'aurons jamais fini avec les mêmes commandements, les mêmes paroles, parce que nous allons toujours nous dire, oh, « il y a plus. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que tu m'appelles à faire. C'est ça que tu m'appelles à être. Apprends-moi tes commandements. Enseigne-moi à faire ta volonté. » Seigneur, nous voulons te prier pour que cette prière de David soit aussi la nôtre. Nous voulons, Seigneur, apprendre à voir tes commandements comme des cadeaux. C'est des cadeaux que tu nous donnes. C'est des bénédictions. Et on veut apprendre, Seigneur, à se réjouir et à chérir tes commandements. Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment à avoir un cœur qui désire apprendre, comprendre toujours plus tes commandements, Seigneur. Nous savons que cela est possible pour nous. Il n'y a pas d'obstacle, c'est pour chacun de nous, Seigneur. Donne-nous ce désir de mieux te connaître. Nous te supplions, Seigneur, à l'heure où la charité, où l'amour pour toi se refroidit dans nos cœurs, à l'heure où nous sommes arrivés dans notre maladie spirituelle à accepter la tiédeur, fais de nous des gens enflammés de la volonté de te connaître et de connaître ta volonté et de connaître tes commandements. Pas de façon superficielle, pas juste pour dire qu'on l'a fait, mais vraiment parce que nos cœurs le veulent et parce que nos cœurs voient combien c'est nécessaire. Seigneur, comme le dit ce verset, que ton bon esprit nous conduise, que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur. Nous ne voulons pas d'une foi de théorie, de bavardage. Nous voulons la réalité dans nos vies au quotidien, mieux te connaître et mieux te glorifier. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen.